Vous écoutez, on lit pour vous.
Entrevue. Voulons-nous encore vivre ensemble? Un texte de Maureen Jouclain, J-O-U-G-L-A-I-N, paru le 12 septembre 2025 dans le magazine Québec Science. C'est à cette question que s'attaque Pierre-Henri Tavoilliot, T-A-V-O-I-2-L-O-T, philosophe et enseignant à la Sorbonne Université, dans son plus récent ouvrage « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» publié en 2024 aux éditions Odile Jacob. Dans le cadre de sa participation aux grandes conférences de l'Université du Québec à Trois-Rivières, il a accordé un entretien à Québec Science. Québec Science. La crise de la COVID-19 est le point de départ de vos réflexions. Qu'a-t-elle révélé selon vous? Pierre-Henri Tavoilliot. La pandémie a constitué une expérience partagée à l'échelle du monde avec le confinement, la distanciation sociale, l'isolement. Bien sûr, chacun l'a vécu différemment, mais tout le monde a été confronté à une même situation inédite qui a permis de se demander « Qu'est-ce qui me manque vraiment? Qu'est-ce qui, au contraire, ne me manque pas? » Cela a été extrêmement douloureux, mais ce fut aussi une expérience philosophique partagée sur le sens de notre vie commune. Et ce que cela a révélé, c'est la bizarrerie de nos sociétés d'individus. C'est une formule étrange, car une société suppose de vivre avec les autres, mais l'individualisme renvoie au repli sur soi. D'un côté, la tentation de la solitude, de l'autre, la séduction du conflit. Ce sont, selon moi, les deux grandes menaces qui pèsent sur la vie commune. Québec Science. Vous écrivez « La vie commune est plus exigeante que de vivre ensemble ». Qu'entendez-vous par là? Pierre-Henri Tavoilliot. En France, on parle beaucoup du « vivre ensemble », mais ce n'est pas une expression que j'aime beaucoup. On peut vivre ensemble, côte à côte, sans jamais se parler, dans l'indifférence totale. On peut aussi vivre face à face dans l'adversité ou même dos à dos dans le rejet. Ce qui m'intéresse, c'est moins le fait de vivre ensemble que la volonté de le faire. Dans une démocratie, on ne se contente pas de l'état de fait. On a besoin d'une adhésion, d'un choix délibéré. Le contrat social repose sur ce vouloir commun. La vraie question est donc, voulons-nous encore vivre ensemble? Et si oui, sur quoi repose ce vouloir? C'est une interrogation qui n'est pas seulement politique, mais presque existentielle. On peut la comparer à une relation de couple. Quand vient une crise, il faut se demander pourquoi on veut continuer, quelles sont les raisons profondes qui justifient ce choix. Aujourd'hui, nos sociétés sont confrontées à cette même mise à l'épreuve. Québec Science, quelle piste de réponse proposez-vous? Pierre-Henri Tavoilliot, j'ai voulu explorer des terrains très concrets que j'appelle les 7 piliers de la convivialité, que sont la nourriture, la vie de couple, la vie sexuelle, la famille, le travail, le débat public, la spiritualité. Selon moi, ce sont des espaces d'expérience commune qui nous disent si nous avons encore un socle partagé. Prenons l'exemple de la nourriture. En France, on passe en moyenne plus de 2 heures par jour à table. Manger ensemble est un moment de sociabilité. La famille, elle, traverse toutes les générations, qu'on soit parent ou enfant. Le couple reste une aspiration universelle, quelle qu'en soit la forme. Le travail demeure aussi un horizon fort, en particulier pour les jeunes qui veulent qu'il ait du sens. Si j'arrive à prouver que dans ces piliers, il existe quelque chose de cette réponse commune qui continue de fonctionner et de tenir, alors il y a de l'espoir. Québec Science. Êtes-vous optimiste? Pensez-vous que la société française et plus largement occidentale veuille encore vivre ensemble? Pierre-Henri Tavoilliot. Je réponds oui, même si l'inquiétude est réelle. On ne peut pas être naïf, mais je crois que les démocraties ont encore les ressources pour répondre à cette crise. L'individualisme, à mes yeux, est une conquête positive. Il a permis à chacun de s'émanciper des contraintes communautaires et familiales, de choisir sa vie, son destin. Mais une fois que nous avons fabriqué des individus, il faut encore fabriquer de la société. C'est ça, le nouveau défi. Je choisis donc de répondre oui, avec la conviction que la clé réside dans la notion d'adulte. Être adulte, c'est reconnaître que l'on a été aidé à grandir et qu'à son tour, on a la responsabilité de faire grandir les autres. Pour moi, c'est le cœur du projet démocratique. Grandir et faire grandir, c'est un beau dessein. C'était Entrevue, voulons-nous encore vivre ensemble? Un texte de Maureen Jouglin, paru le 12 septembre 2025 dans le magazine Québec Science.
Longueuil rend hommage à René Lévesque, le député. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 22 août 2025 dans Le Devoir. La ville de Longueuil a inauguré, vendredi le 22 août 2025, sa nouvelle promenade René Lévesque, revampée au coût de 5 millions de dollars et désormais agrémentée d'un parcours historique qui relate la vie et l'œuvre de celui qui fut député de la circonscription de Taillon pendant presque une décennie. La promenade, qui longe le fleuve Saint-Laurent, de la Marina de Longueuil jusqu'à Boucherville, était en travaux majeurs depuis 2024, notamment pour rebâtir la piste cyclable arrivée à la fin de sa vie utile. Le parcours est désormais doté d'une exposition en plein air qui relate les grands moments de la vie de René Lévesque, de son enfance jusqu'à l'accession au poste de premier ministre, mais aussi son passage comme député de Taillon, rôle moins connu. On connaît la contribution de M. Lévesque en tant que premier ministre ou en tant que ministre des Ressources naturelles lors de la nationalisation de l'électricité. Mais on connaît moins sa contribution en tant que député de Taillon pendant une dizaine d'années. Il a laissé sa marque indélébile sur notre communauté et je crois qu'on doit rendre hommage à tout ce pan de notre histoire, a expliqué la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, au moment de l'inauguration. De 1976 à 1985, le député Lévesque aura permis à la circonscription de se doter d'un palais de justice, de l'hôpital Pierre-Boucher, ainsi que de deux CLSC et de deux CHSLD. Surtout, il aura tissé un lien durable avec la population locale, selon Mme Fournier, qui a été, de 2016 à 2021, députée de la circonscription voisine de Marie-Victorin, elle-même créée à partir d'une partie du comté de Taillon. Je me rappelle, lors de ma première campagne électorale, j'ai rencontré des membres et des sympathisants du Parti québécois plus âgés qui se souvenaient de M. Lévesque, du temps qu'il était député. Ils m'ont raconté que, le lundi, c'était sa journée dans Taillon. On savait qu'il allait faire la tournée des petites cantines du coin, puis qu'il ferait le tour de la rue Sainte-Hélène, a raconté au Devoir Mme Fournier. Un salon de coiffure du coin, où il avait ses habitudes, chemin du Coteau Rouge, porte d'ailleurs le nom de Tipoil en son honneur. Même quand il était premier ministre, il prenait une journée sur sept pour son comté. Il n'y a pas d'autres premiers ministres dans l'histoire récente qui ont fait une telle chose. Je pense que ça en dit beaucoup sur l'homme qu'il était, a souligné Catherine Fournier. Il a toujours été présent dans sa circonscription, même s'il était premier ministre, a ajouté l'historien Jean-Charles Panneton, qui a signé une histoire du gouvernement Lévesque en 3 tomes chez Septentrion. Il était très intéressé à son travail de député, malgré son agenda chargé. Il a toujours dit à ses ministres « Soyez prêts à aller rencontrer les citoyens. » Ce n'était pas juste une phrase en l'air. Il croyait vraiment, fondamentalement, qu'il fallait rester branché sur les Québécois. Bastion péquiste. La circonscription de Taillon, qui comprend une bonne partie de Longueuil, a permis à M. Lévesque de se faire élire une première fois sous la bannière du Parti québécois, PQ, en 1976, après 2 échecs successifs sur l'île de Montréal. Pourtant, ce n'était pas le premier choix du chef du PQ. On l'a pris par le collet, on l'a amené et on l'a convaincu. C'est rappelé avec le sourire Pierre Marois, élu en 1976 dans la circonscription voisine de La Porte. Lui, dans sa tête, c'était Laurier, son comté. Il trouvait que c'était comme trahir les gens de Laurier que de le quitter. C'était comme ça qu'il voyait les choses. Mais nous autres, on avait besoin du meilleur candidat dans Taillon. La circonscription le lui rendra bien. Élu, le 15 novembre 1976, avec 62 % des voix, il fera encore mieux en 1981 en récoltant 68 % des suffrages et une majorité confortable de plus de 12 000 voix. C'était une de nos meilleures circonscriptions. Les militants péquistes n'en revenaient pas de pouvoir avoir le chef dans leur cour. S'est remémoré Pierre Marois, qui fut ministre au développement social et ministre du Travail dans le gouvernement Lévesque. Cet ancien bastion péquiste, qui a aussi été représenté à l'Assemblée nationale par Pauline Marois et Marie Malavoie, est entre les mains de la coalition Avenir Québec et du ministre Lionel Carman depuis 2018. C'était Longueuil rend hommage à René Lévesque, le député. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 22 août 2025 dans Le Devoir.
L'écho du monde. Une chronique de Félix Morin, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. La mort rôde dans ma famille depuis quelque temps. Alors que j'avais été épargné du deuil depuis la mort de mon grand-père paternel, voilà que les 2 dernières années ont été celles où j'ai dû porter la disparition de mes 3 derniers grands-parents. Malgré l'immense tristesse qui m'a envahi au moment de leur départ respectif, j'ai trouvé en moi une étonnante sérénité que j'ai encore du mal aujourd'hui à m'expliquer. C'est peut-être simplement cela, vieillir, apprendre à vivre avec la mort. Briser le silence. En mai dernier, c'est mamie qui nous a quittés, fermant ainsi le cycle des départs. C'est justement à ce moment que le livre de Mathieu Bellil et Alain Vadeboncœur, « Quelqu'un doit parler », a trouvé son chemin jusque dans mon bureau. Il est arrivé trop tôt. Je n'avais absolument pas la tête à lire ou à me questionner, mais il était là, jamais bien loin. Il y a des livres comme ça qui nous accompagnent même lorsqu'ils ne sont pas lus. Un matin, ce livre s'est imposé à moi comme une évidence, comme si j'étais enfin prêt, en plein milieu de l'été, à rouvrir mon deuil. Et j'étais entre bonnes mains. Cet essai, qui arrive à nous mettre un sourire au visage au cœur de la tragédie, m'a tout simplement donné ce qu'il me manquait pour penser la mort sereinement. La forme du dialogue fait contraste justement avec ce silence assourdissant entourant le deuil dans notre société. C'est là tout le paradoxe. Les auteurs ont trouvé une manière vivante pour parler de la mort. C'est dans cet enthousiasme entre ces deux magnifiques essayistes que j'ai pu prendre le temps de me poser. Dans ces pages, Alain Vadeboncœur a mis des mots sur une chose, à mon sens, particulièrement importante. La mort n'est peut-être pas aussi tabou que nous voulons le croire dans notre société. Il fait, avec Mathieu Bellil, son métier d'essayiste. Poser le problème autrement. En effet, comme il le mentionne, la mort est présente dans les livres, les séries, les peintures, etc. Nous ne cherchons pas à la cacher. Il est vrai que, lors du décès de mes trois grands-parents, je n'ai eu aucune difficulté à en parler avec des collègues et amis. Pourtant, un trouble persistait chez moi et je n'arrivais pas à le circonscrire avant la lecture de cet essai. Pour cet urgentologue, notre difficulté avec la mort, c'est peut-être surtout une question de manque d'expérience. En lisant cette phrase, je me suis souvenu de mon trouble devant le corps inanimé de ma grand-mère. J'ai eu la chance de pouvoir rester dans la même pièce pendant un long moment avec elle. J'étais perdu devant l'absence de rituel pour m'aider à vivre avec ce que la poète Mélanie Noël appelle « l'inséparable distance ». C'est fou tout de même. La mort est l'une de nos rares certitudes et pourtant nous ne savons pas totalement quoi en faire. J'errais dans ce monde où elle n'était plus. Ce qui se dépose. Et encore, ce trouble est une chance, celle d'être présent et de pouvoir se recueillir auprès du corps. La mort est une chose, les disparitions associées en sont une autre. Chaque décès vient avec son lot de disparitions intimes. Le jour où mamie est partie, il y a quelque chose comme un rapport au monde qui a disparu avec elle. Ma mère, au moment de sa disparition, m'a dit si justement ce qui venait de partir avec ma grand-mère. Je n'ai plus de mère. Elle a raison. Elle sera toujours sa mère pour les généalogistes, mais plus jamais ces mots ne seront portés par le regard de la femme qui l'a mise au monde. C'est le moment où l'on devient totalement adulte, où l'on perd tous nos appuis pour la suite. À ce moment, avec ma mère, j'ai pris conscience de ces phrases que j'allais devoir porter pour ne pas les laisser mourir. Elle ne me dira plus jamais avec ce sourire narquois. Il est bien grand, ce petit. Cette phrase ne me sera plus jamais adressée. Ces mots ont perdu toute leur intimité. Il y a dans le plus récent livre de Nathalie Platte, Mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux, quelque chose qui m'a profondément aidé. Dans cet essai création, ce genre qu'elle tente de déployer dans cette nouvelle collection dirigée par Nicolas Lévesque, elle nous présente un amour d'adolescence, son premier amoureux et sa longue disparition. De la psychose vécue par ce jeune homme à la disparition physique de son corps qui n'a jamais été retrouvé, Nathalie Platte fait bien plus que le récit de la chute de l'être aimé. Au fil des pages, on dépasse le simple deuil pour voir l'héritage d'une disparition. Elle montre de quelle manière sa pratique du métier de psychologue est intimement liée à cette relation si charnière dans sa vie, comment son amour d'adolescence a contribué au fil du temps à la fondation de ce qu'elle est encore aujourd'hui. Elle me donne le goût de croire que, à défaut d'éviter la mort, on peut faire vivre tous les jours ce qu'il y a de plus beau de celles et ceux qui ont disparu. Quitter ce lieu. En début de texte, j'avançais timidement que vieillir, c'est apprendre à vivre avec la mort. Or, cela est bien trop philosophique, bien trop brumeux pour un texte sur ma grand-mère, dont la voix résonne encore lorsque je ferme les yeux. Plus ce texte m'oblige à plonger en moi, plus je me rends compte que ce n'est pas ça. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre avec la mort des autres. Je n'ai pas la chance de croire en la vie après la mort. J'en suis incapable, mais j'aimerais. Je le confesse parce que je pourrais vivre en attendant simplement de rejoindre celles et ceux qui m'ont constitué par leur amour et leurs histoires personnelles. Le matin où mamie nous a quittés, je suis resté dans cette chambre longtemps. Je voulais tout mémoriser, mais l'entreprise était vaine. Elle était déjà partie. C'est son dernier « Je t'aime » que je cherchais. Le 2 mai 2024, on s'est parlé pour la dernière fois. Le lendemain, c'est un écho du monde que nous avons perdu. Une musique singulière qui est arrivée à la dernière note. Cet écho, loin de participer au bruit ambiant, continue de résonner en moi. C'est à moi maintenant de voir comment je veux l'interpréter. C'était L'écho du monde, une chronique de Félix Morin parue le 21 octobre 2024 dans les libraires.
L'affaire Tony Sphère, un mauvais précédent pour les droits trans, un texte d'Ophélie dénommé Marchand, paru le 25 août 2025 dans le magazine Fugue. Un jugement récent de la Cour supérieure de l'Ontario, la couronne contre Tony Sphère, a provoqué tant du côté des communautés queer et trans que du côté de ses détracteurs des spéculations que cela impliquerait que les personnes trans doivent déclarer le fait qu'elles sont trans pour respecter le consentement libre et éclairé de leur partenaire sexuel. Y a-t-il donc des limites à explorer son identité sexuelle et de genre au sens de la loi? Pour voir plus clair dans cette histoire nébuleuse et les questionnements judiciaires qu'elle soulève, Fugue s'est entretenu avec un avocat criminaliste qui se fait rassurant. Tony Sphère a été condamné à 28 mois de prison pour avoir violé l'intégrité sexuelle de ses victimes et de les avoir agressées sexuellement, deux hommes qu'il a rusé à avoir du sexe anonyme avec lui à travers un glory hole en prétendant être une femme. En résumé, Tony Sphère communiquait avec ses victimes sur des applications de rencontres en utilisant le nom d'Angela et des photos de femmes qu'il a invitées à avoir des rapports sexuels anonymes par l'entremise d'un glory hole chez lui. Alors que Tony Sphère performait une fellation sur une de ses victimes à travers ce glory hole, il a soudainement inséré le pénis de la victime dans sa cavité anale sans préavis, ce qui a justifié le crime d'agression sexuelle, car le consentement n'a pas été obtenu. La victime dit avoir alors remarqué que la personne de l'autre côté du glory hole n'était pas une femme, car elle n'avait pas l'impression d'être en contact sexuel avec un vagin. La cour a déterminé que Tony Sphère utilisait les images d'une femme fictive, donc il n'a pas été reconnu coupable de l'accusation d'avoir personnifié une femme en bout de ligne. Mais le fait qu'il ait rusé des hommes à avoir du sexe avec lui, croyant qu'il était une femme, a quand même pesé dans la balance comme ayant violé leur consentement, car les victimes ne savaient pas qu'elles couchaient en réalité avec un homme. Le condamné a tenté de se faire entendre en cour d'appel, sans succès. Les victimes n'ont pas fait assez attention et la cour les a déresponsabilisées aux yeux de Maître Eric Sutton, qui s'est dit très surpris que le cas ait abouti en cour criminelle. Cela revient aux victimes de poser plus de questions avec qui l'on choisit d'avoir des rapports sexuels. La même logique s'applique à un adulte qui couche avec quelqu'un qui n'a pas 18 ans et qui n'a pas posé la question. L'administration publique a des responsabilités et ne devrait pas infantiliser les victimes comme elle l'a fait ici. 28 mois de prison pour un cas comme ça, c'est énorme. Puisque Tony Sphère n'a pas invoqué, questionné son genre ni être trans, Ce jugement ne représente pas explicitement une menace aux droits LGBTQ+, mais il rappelle l'importance de ne pas induire en erreur sur qui l'on est et de respecter les principes du consentement, même si l'on veut expérimenter avec sa sexualité et son genre. Si Tony Sfer avait dit être une femme ou soulevé le questionnement de son identité de genre, le dossier aurait eu une tournure différente. En droit criminel, il faut un mens rea, c'est-à-dire un esprit coupable, donc les personnes trans ne seraient pas concernées. Si quelqu'un se considère femme mais est biologiquement un homme, ou vice-versa, la personne peut sincèrement croire qu'elle est de l'autre sexe. Toutefois, cette sincérité peut être remise en cause devant la justice. Sur la question de l'obligation à révéler la transidentité, l'avocat criminaliste Eric Sutton ne croit pas que ce type d'accusation criminelle n'affecterait les personnes trans, mais il met en garde qu'il y a toujours un risque de recours en justice et qu'il est préférable de ne pas mentir si la question est posée pour bien se prémunir. En 2025, c'est bien connu qu'une partie de la population est transgenre. Si la question n'est pas posée, je ne vois pas comment on peut imposer à la personne transgenre l'obligation de révéler quoi que ce soit, à moins que cette personne cherchait à tromper la vigilance de la victime. Pour le criminaliste, cette affaire est un mauvais usage de l'argent des contribuables. Les avocats de la poursuite et les tribunaux ont des ressources limitées, alors qu'il y a des victimes vulnérables et sans défense, donc je ne vois pas la pertinence, dit-il. Il y a des enfants victimes d'actes sexuels qui n'ont pas de ressources à localiser dans les corps policiers pour enquêter, tandis qu'un cas comme celui de Tony Sfer aurait dû être placé au bas de la liste des priorités, déplore l'avocat. Des questions demeurent sans réponse dans cette affaire. Est-il possible que Tony Sfer ait un trouble de personnalité multiple ou qu'il questionne son identité de genre? Est-il possible que la culture d'origine de Tony Sfer, un immigrant libanais, ait pu influencer son attitude sur son identité de genre, voire qu'il ait un manque d'éducation à cet effet? Selon Eric Sutton, l'avocat de Tony Sfer aurait dû creuser plus loin dans ces questions de la défense, quoiqu'il souligne que c'est aussi possible que Tony Sfer ait simplement du plaisir sexuel en rusant des hommes à croire qu'il est de l'autre sexe. C'était l'affaire Tony Sfer, un mauvais précédent pour les droits trans? Un texte d'Ophélie Dénommé-Marchand paru le 25 août 2025 dans le magazine Fugue.